Autre radio, autre culture, bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons le groupe Arai Trio. Bonjour.
Bonjour.
Composé
bonsoir.
De Christina Delume, chanteuse. Bernard Vistrette, flûtiste.
De même.
Et Laurent Cardozo, guitariste. Alors bonjour à tous les trois. Et vous êtes accompagnés de votre ami de toujours, un amoureux de la musique et ami des musiciens, Richard Scotto.
Bonsoir.
Qui est également alors président de l'association Aquitaine des clarinettistes.
Oui, je vous remercie de le signaler. C'est une association qui a été créée pour rassembler les clarinettistes d'Aquitaine, mais aussi de France et d'ailleurs, et informer sur les activités, créer des moments, des relations, différentes activités musicales et pédagogiques.
Cette association regroupe combien de membres ?
Bien, pour l'instant, officiellement, il y en a seulement une centaine à peu près, mais nous allons avoir bientôt un renfort assez sérieux de la part de musiciens d'autres régions de France, et j'espère également de l'étranger. Donc là, je commence cette activité officiellement dans quelques semaines.
Très bien, très bien. Alors, Arai Trio existe depuis combien de temps ?
Arai Trio existe en intermittence depuis très longtemps. Je n'ose même pas dire depuis quand. Une trentaine d'années ?
32 ?
Non, si, comme le temps passe. Si, à peu près une trentaine d'années. Arai veut dire nuage en guarani. C'est un mot guarani. Et c'est la raison pour laquelle nous portons un nom guarani pour les besoins de l'enregistrement de ce disque. Alors, suivant que nous chantons en guarani ou non, nous nous appelons différemment. Nous pouvons nous appeler Calicanto de temps en temps lorsque nous enregistrons des musiques et des chants hispaniques plus particulièrement. Nous pouvons nous appeler aussi Bernard Huistrat Trio lorsque Bernard est le protagoniste d'un spectacle ou d'un CD en jouant de la flûte. Mais là, Arai, c'est très aérien déjà à prononcer, et ça veut dire nuage, donc c'est facile à porter. Et nous appelons comme ça lorsque nous chantons particulièrement des chansons sud-américaines sur scène ou que nous enregistrons des CD de musique sud-américaine. Et là, c'est le cas. Le CD dont nous voulons parler aujourd'hui s'intitule Orequera, encore un intitulé guarani qui veut dire nous, nous autres. En fait, c'est un nous restrictif. C'est nous par rapport aux autres, hein. Comme si nous refermions la cellule sentimentale ou affective autour de nous. C'est une façon de parler qui n'existe à peu près, je pense, qu'en guarani. Nous autres, mais nous dans notre cœur, quoi. Nous, la musique près de notre cœur.
Le guarani étant la langue indienne du Paraguay. On en trouve aussi au Brésil, je pense, hein. Et en Argentine un peu.
Voilà, on en trouve dans ces régions-là, parce qu'avant la guerre du Chaco, le Paraguay était beaucoup plus grand en surface, en géographique à l'heure actuelle, ça s'appelait le Grand Paraguay, et des villes qui sont maintenant brésiliennes ou argentines, comme Formosa, par exemple, en Argentine, faisait partie du Grand Paraguay. Donc on parle aussi guarani, parce que la frontière est politique, mais la langue perdure dans ces régions-là. Et Orequera est composé donc de chansons paraguayennes, donc, qui sont bilingues, c'est-à-dire avec des parties en guarani et des parties en espagnol. Et puis, des cuecas chiliennes, cueca et tonada. Laurent ensuite expliquera un petit peu la différence rythmique entre les deux. Et des sambas argentines. Donc, c'est vraiment le cône sud. Ce que j'appelle le cône sud, c'est donc Chili-Argentine. Le Paraguay, économiquement, n'est pas mentionné dans le cône sud, mais artistiquement et historiquement et humainement, il fait partie du cône sud. Voilà. Ça, c'est pour commencer l'introduction et l'intitulé de ce disque. Est-ce que je peux dire la petite phrase là du début ?
Oui, oui, oui.
Pour
oui.
qu'on sache à peu près, voilà. No despunta aún el alba. Le soleil n'est pas encore levé et pourtant une jeune muletière de la campagne paraguayenne porte déjà au marché d'Asunción les fruits de sa récolte. Toutes les mélodies de ce CD disent les peines et les joies, les revers et les victoires des gens qui les chantent. Nous rendons hommage ici à Cristóbal Cáceres, chanteur d'Asunción ô combien regretté. Les douces guaranas d'Asunción Flores ou d'Herminio Jiménez font ressurgir du fond de nos mémoires les amours de jeunesse, les absences et les nostalgies jamais tout à fait oubliées. Les sentiers de la langue guarani nous mènent jusqu'en terre argentine où la samba salue de son foulard Mercedes Sosa et Atahualpa Yupanqui. Et la cueca chilienne déchaîne toutes les passions lorsque c'est un huaso qui la danse. Un huaso, c'est un mot chilien, c'est-à-dire les cavaliers qui sont habillés un peu comme les Andalous, soit avec un chapeau un peu cordouan, un peu comme ça, un chapeau de flamenco, une petite veste courte comme les danseurs un peu de flamenco. D'accord. Et ce sont des cavaliers.
Donc c'est trois types de chansons, trois types de rythmes.
Oui,
c'est ça.
Oui.
Et les instruments en général se retrouvent dans chaque type de rythme ou on change? Comment
dans
ça se passe?
Dans toutes les chansons, et ça, Laurent va peut-être prendre le relais. Donc il y a guitare, flûte et voix dans toutes les chansons, sauf la dernière chanson qui est un carnavalito. Carnavalito, cette chanson en particulier est un rythme du nord de l'Argentine ou du sud de la Bolivie, la quebrada, ce qu'on appelle, et qui est accompagné au charango.
Laurent, la charango.
Charango, donc c'est une petite guitare qu'on trouve aussi bien en Argentine, au Pérou qu'en Bolivie. C'est à l'origine fait avec une carapace de tatou. Il y a plusieurs tailles, mais là le charango c'est une petite taille. C'est-à-dire que c'est une caisse qui doit faire à peu près 22 cm sur 10 cm. Et il y a 5 cordes doubles en nylon. Et il y a plusieurs tailles, comme pour les violons ou pour les guitares, généralement. Le charango, c'est donc la plus petite.
C'est tout petit, 25 centimètres.
Si vous pouvez préciser, le tatou.
Le tatou, c'est un animal un peu de la famille de quoi, on va dire, des hérissons, un peu, avec une carapace qui se claque en cas de défense. Et donc, c'est interdit maintenant donc, de l'utiliser. Donc, on a remplacé par du bois. Donc, c'est plus solide et puis c'est un son plus régulier. Voilà. On en était où?
Charango.
On en était où des divers rythmes de ce disque. Donc, il y avait donc, dans les chansons paraguayennes, il y a trois rythmes particuliers au Paraguay, qui est la polka, ou en guarani, la chanson, canción, et la guarania. Alors, la polka, pour le dire dans un langage plus compréhensible, c'est un rythme rapide, la canción, un rythme intermédiaire, et la guarania, un rythme lent. Alors, si tu veux expliquer comment ça peut se décomposer, on aurait pu apporter une guitare et faire une petite démonstration. Mais
on
bon.
Peut le faire, je crois qu'il y a des guitares.
Il y a des guitares ici, on peut les faire.
En ce qui concerne les chansons argentines, ce sont des sambas. C'est un rythme du nord de l'Argentine, de Tucumán en particulier, et qui ont été véhiculés le plus richement et le plus longtemps par Atahualpa Yupanqui et par Mercedes Sosa. Et les rythmes chiliens sont des cuecas et des tonadas. Il y a une petite différence entre chaque. Alors on peut faire un tout petit exemple de chaque chose. Je ne sais pas si la guitare... Ici, nous sommes dans un lieu où on enregistre souvent les CD et il y a tout un tas d'instruments entre nous.
D'ailleurs, ce CD a été enregistré dans le studio même.
Voilà.
On vous parle. Vous êtes au courant, Marion?
Oui, tout voilà. À fait.
C'était enregistré en direct. Ils ont chanté comme ils étaient sur scène. Et moi, je suis venu simplement après refaire des flûtes. Mais contrairement à ces instruments traditionnels dont Laurent vient de vous parler, moi, j'ai joué que des flûtes traversières normales. Mais aussi bien du piccolo, la flûte en ut, une flûte alto, une flûte basse. Je n'ai pas voulu faire du folklore. Je ne sais pas d'ailleurs. Je n'ai pas pris des quenas ou des flûtes de là-bas. Sauf que je joue dans l'esprit. Et parce que j'aime tellement ces musiques-là aussi. Mais toujours avec des instruments traditionnels. Vous voyez que ce trio est quand même un peu bizarre. Laurent est le traditionnel. Christina aussi que sa voix. Mais moi, je suis le flûtiste dit classique. Mais qui vient se soudoyer la bande.
Ah, Laurent. Alors,
oui.
Laurent s'y met.
Voilà, mais Laurent, il s'y est mis. Donc, le premier, alors le rythme rapide, Paloma Blanca.
A manota de quebranto, guira mi jaula peguaya. Porque en dar eco y consuelo, mi linda paloma blanca. Quebranto, guira mi jaula peguaya, porque andaré con consuelo.
Hola.
Canción, burrerita.
No despunta aún el alba cuando inicias tú la marcha, y al mercado te diriges a llevar maerepe. No haces caso de la lluvia, ni te importa si la escarcha. Solo puede
Guarania, Asunción. Asunción, qué distante tus recuerdos van quedando para mí. Asunción, eres dulce desde lejos en el arpa guaraní.
Bravo.
Merci. Très très beau. Ce sont quand même des rythmes qui sont assez joyeux, qui sont...
Absolument. Le Paraguay est le pays le plus joyeux de l'Amérique du Sud. Et les Indiens Guarani, les Indiens paraguayens, sont des Indiens gays. Gays dans le sens de joyeux, ne nous méprenons pas.
Ils rient souvent.
Par les temps qui courent. Ce n'est pas l'Indien triste de l'Altiplano, pas du tout. Ce sont des gens qui, au départ, ont été... le Paraguay a été peuplé par des Indiens Guarani et les Espagnols qui sont allés les coloniser étaient des Andalous pour la plupart. Andalous ou gens d'Extrémadour, encore des gens gays. Et leur musique est beaucoup influencée par la musique andalouse et notamment les tanguillos de Cádiz, de la baie de Cadix. Et effectivement, ce sont des Indiens joyeux.
Richard.
Oui, je voudrais poser une question, justement. Tu disais les Espagnols qui sont venus les coloniser ou les conquérir, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais alors, justement, est-ce que ces Espagnols ont exercé des pressions ou des exactions sur ces gens-là? Est-ce qu'ils ont essayé de les éliminer ou au contraire, ils ont été... correct.
Alors, on a correct, enfin, quand on envahit un pays, le mot correct.
Oui, on n'est jamais correct, c'est vrai.
Mais en fait, en particulier, Asunción, qui est le cœur de l'Amérique du Sud, le Paraguay est vraiment le cœur de l'Amérique du Sud, le vice-royaume était notamment peuplé par de nombreux jésuites. Je veux dire par là que là où il y a un jésuite, il y a une grammaire, et que c'est la seule, enfin, c'est vraiment la seule langue d'Amérique du Sud qui est parlée d'une manière bilingue par toute la population du Paraguay. Donc, c'est des Indiens gays parce que justement, effectivement, les jésuites voulaient les faire travailler, voulaient. Et alors, eux, ils se roulaient par terre, ils riaient tellement ils trouvaient ça drôle qu'on veuille les faire travailler. La seule façon qu'ils ont eue de les baptiser, de pouvoir les évangéliser, a été de les faire chanter et jouer de la musique. C'est par la musique que ces fameux jésuites ont réussi à en faire quelque chose.
Parce que je voulais faire un parallèle avec justement les Noirs aux États-Unis, qui eux se sont exprimés plutôt dans des musiques tristes au départ, dans le blues, pour chanter leur chagrin, leur peine, leur misère, puisqu'ils étaient réduits en esclavage et ils vivaient dans des conditions très précaires.
Alors, Les conditions de vie de l'Indien de cette région-là n'a rien de comparable avec, la traite, l'esclavage. D'abord, ils étaient chez eux, ensuite ils invoquaient la lune, ils aimaient la chasse et la pêche, ils sont toujours au bord des rivières.
Est-ce qu'on retrouve des chansons, parce que c'est souvent, ça a l'air souvent d'être des peines de cœur ou des chansons d'amour ou portées sur l'homme, mais est-ce qu'on a des chansons qui portent sur la nature?
Absolument. De toute façon, les Paraguayens ont un cœur d'artichaut, ils le savent tous. Donc ce sont toujours des chansons d'amour et ils sont toujours amoureux transis d'une très belle jeune femme. Ils passent de l'une à l'autre d'ailleurs très facilement. Mais effectivement, il y a la nature. La nature, oui, la nature est très présente. Donc, puisque l'Indien Guarani adorait la lune, en fait. On parle souvent de la Pachamama dans les autres pays, la déesse terre. Pour le Guarani, c'est pas la déesse terre, c'est la déesse lune. Ils sont fils de la lune. Ils sont très proches de l'eau, ils aiment se baigner, les rivières, ils aiment pêcher, ils aiment chasser et ils font de la musique.
Et ils dansent.
Et ils aiment les jolies femmes. Et ils le disent tout le temps dans leurs chansons.
Faut pas vieillir.
Oui, c'est ce que je vois. Et au niveau des danses, alors, est-ce qu'il y a des danses pour chaque type de chanson? Comment
oui.
ça se passe?
Oui, alors il y a la fameuse galopera, c'est une danse... Alors les robes des femmes paraguayennes sont très belles, ce sont de très belles dentelles qu'on appelle ñanduti, qui est aussi inspiré de la dentelle andalouse, mais qui s'est transportée là-bas et les gens du cru ont apporté leur propre façon de faire. Et donc c'est une danse avec... ce sont des jeunes femmes qui mettent une bouteille sur la tête et c'est un rythme assez endiablé. Et elle danse comme ça en faisant des pas que je ne saurais trop, je ne suis pas chorégraphe, mais il y a une très belle chorégraphie, oui, effectivement. Pour ce qui est des chorégraphies vraiment faites et orchestrées, il vaut mieux se tourner vers l'Argentine ou le Chili, parce que la samba, c'est une danse, la cueca, c'est une danse. Aussi, on fait des figures de style, les femmes et les hommes se tournent autour les uns des autres, en tournoyant avec un foulard, un mouchoir à la main, un foulard blanc, qu'ils font tournoyer autour de leur tête dans une chorégraphie très précise, comme pourraient l'être, par exemple, les sevillanes en Espagne. Le flamenco peut être une danse d'inspiration et d'improvisation, mais la sevillane est une danse tout à fait chorégraphiée avec des pas, et ça m'y fait souvent penser.
La plupart des chansons que vous avez prises pour votre album, ce sont des chansons vraiment populaires, des chansons anciennes
Ce sont des chansons d'auteurs tout de même, bon, sauf Paloma Blanca ou Las Dos Puntas, qui est une cueca un petit peu. Par exemple, Burrita est une chanson avec un texte, un joli texte, un texte qui parle de la rudesse de la vie de la jeune fille de la campagne qui vient avec ses fruits les apporter au marché et que la vie n'est pas facile tous les jours. Et là, le texte est joli. Asunción, aussi, qui dépeint la nostalgie de la ville, de la capitale du Paraguay perdue, parce que le chanteur en est parti depuis longtemps. Aussi, ce sont des auteurs, Asunción Flores, Herminio Jiménez, ce sont de grands auteurs et compositeurs paraguayens. Et pour ne parler que de la samba La Pobrecita au Piedra y Camino, ce sont des sambas d'Atahualpa Yupanqui, qui est quand même le plus grand musicien folkloriste argentin qu'on ait eu ici en France, et c'est lui qui a donné à la samba ce tour un peu indien, alors que la samba ressemblait plus à une jota espagnole avant que lui ne lui donne cette touche indienne et qu'il la rende comme elle est aujourd'hui.
Ça se traduit comment au niveau de la musique, ce côté indien, justement ce côté local?
Ah ben, tu veux donner un exemple?
C'est mieux
Laurent
que les guitares. Ouais.
Il n'y a que, je pense, que la meilleure manière de le montrer.
La llaman la pobrecita porque esta samba nació en los ranchos con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. Con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos.
Très bien, toujours aussi beau Alors, je voulais en revenir avec Bernard, qui travaille sur des flûtes, tout ce qu'il y a de plus normal en France.
Des flûtes traversières.
Des flûtes traversières. Pourquoi ne pas avoir pris des flûtes indigènes?
Je l'ai dit tout à l'heure, parce que je les joue très mal. J'adore ça, j'en ai plein. J'ai des flûtes, des sikous, des kena et tout. Je les joue pas bien. Et moi, je suis... Bon, mon métier, c'est d'être flûtiste. Donc je ne supporte pas de ne pas bien jouer mon instrument. Je peux faire des couleurs, tout ça. Alors j'ai recréé ce que les flûtistes jouent, les flûtistes indiens, mais avec mes flûtes. Donc j'utilise beaucoup une flûte basse, d'ailleurs dans ces sambas, et je fais... Quand on dirait, on peut confondre avec des grandes flûtes basses, comment vous les appelez? Les sikous, oui. Parce que je joue un peu, et donc je reproduis ce qu'il y a, et puis ça m'amuse terrible. Après, s'il faut, les cuecas, je prends un piccolo, ce qui n'a pas d'équivalent dans la justesse, la force et le super aigu d'une flûte, une petite flûte. Vous les comparez à quoi, leur petite flûte?
Kena.
Non, c'est la...
Oui, les kena, mais aiguë, alors.
Oui, très, bon,
elles
très
ne vont pas à l'octave au-dessus. Donc je me permets de les faire flûte. Donc ça amène la couleur, la couleur belge dans le disque. Faut peut-être pas le dire, ça. Voilà. Moi, je suis spécialiste des flûtes traversières depuis 50 ans. J'ai fait des musiques de films innombrables. J'ai accompagné beaucoup de chansons, comme Marie Laforêt, au moment de son époque. Je lui ai même écrit des chansons. Et chaque fois, j'ai composé une musique qui s'appelait La Péruvienne. C'était sa grande époque aussi. Et là, je joue de la flûte à bec quand même.
Ah oui.
Bon, mais alors je joue avec le vibrato des kena, etc. Puisque avec ma colonne d'air, bon, on a assez de techniques, les instruments avant, pour quand même vibrer, ne pas vibrer, enfin jouer des choses techniques. Et ça, ben, ça nous amusait terrible, ça.
Alors, sinon, on l'arrête.
J'en ai d'autres, hein, j'en ai
sinon,
d'autres à
nous,
dire.
On l'arrête, on lui dit, là, non. Tu n'es pas dans le bon chemin, reprends ce chemin-là.
Alors, 12 chansons, comment s'est fait le choix, finalement? Est-ce qu'il y a un pays qui est plus prépondérant que les autres?
Le Paraguay, oui. En fait, je me suis rendu compte que les artistes qui chantaient ces chansons-là dans les années 70-80 à Paris, lorsque le Rancho Guarani existait, qui était un lieu qui se trouvait rue Descartes, qui appartenait à Cristóbal Cáceres, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est un des fondateurs du groupe Les Guarani. Les Guarani sont arrivés en France dans les années 50 avec les ballets de l'Amérique latine. Et c'était des musiciens sur scène qui accompagnaient tout un ballet, qui faisait tout un panorama de l'Amérique du Sud. Et eux sont restés en France. Et Cristóbal Cáceres était le chanteur qui, de très loin, était le meilleur interprète de la musique sud-américaine. Ici, et il chantait justement Burrerita, Asunción, Paloma Blanca, Lejanía, Ángel de la Sierra. Ángel de la Sierra est une chanson qui a été composée par son frère, justement. Et ensuite, Atahualpa Yupanqui est mort, Mercedes Sosa est morte. Et qui chante maintenant La Pobrecita, qui chante Piedra y Camino, ce sont des chansons qu'on n'entend plus. Alors je me suis dit, c'est le moment ou jamais de les chanter et de les graver. Dans la mesure où les CD actuels conservent un certain temps nos musiques avant que ça s'efface complètement. Et j'ai fini par un Carnavalito, qui est une chanson endiablée, indienne aussi, alors très indienne, qui est accompagnée par le charango. Comme on n'a pas de charango ici, on ne donnera pas d'exemple. Il faudra donc écouter le CD pour savoir de quoi il s'agit.
Angèle Parra nous avait parlé, au moment quand il était petit, du travail que sa maman avait fait dans tout le Chili pour retranscrire les musiques, enregistrer, pour que l'on n'oublie pas ce type de chanson. Est-ce qu'au Paraguay, il y a eu ce même travail?
Il y a eu, au temps justement de Cristóbal Cáceres, c'est le moment où la musique paraguayenne était en train de tomber en désuétude, et son frère et lui ont fondé un duo qui s'appelait Duo Hermanos Cáceres, frères Cáceres, et ils ont commencé à chanter. Ils se trouvaient tous les chanteurs et les musiciens paraguayens de l'époque se trouvaient en Argentine, à Buenos Aires, qui était une capitale qui attrayait énormément tout le monde puisqu'elle était très développée. C'était une capitale bouillonnante, intellectuelle, où tout le monde qui vivait nuit et jour, et en fait la musique argentine était en train de prendre le pas sur la paraguayenne. Et les deux frères Cáceres ont fait un travail justement sur le retour aux sources, retrouver leur rythme, etc. Et ici, en France, on avait Nicolas Pérez González, qui était un musicien, musicologue, qui a aussi été de ceux qui ont ressorti leur musique, leur tradition, et qui ne voulaient absolument... D'ailleurs, voulaient, les uns et les autres, ne chanter que des chansons paraguayennes. Ils avaient l'impression de déroger si on leur faisait chanter un boléro, par exemple, ou quelque chose d'autre que du paraguayen. Ils étaient là pour être le chaînon de la chaîne, enfin le maillon de la chaîne qui perpétue leur tradition.
Il y avait tous les instruments dont Laurent nous a parlé, mais aussi il y avait l'harpe paraguayenne. C'est fabuleux dans leur musique, qui est vraiment bien employée. Hein.
L'harpe paraguayenne est fondamentale dans la musique au Paraguay, oui. C'est harpe, guitare, requinto, qui est une petite guitare, et chant, et voix.
Bon, il n'y a pas de harpe celtique, là, ici
Non, paraguayenne. Non,
mais... Il y a un morceau qui illustre très bien l'harpe. L'harpe paraguayenne, c'est le fameux Moliendo Café.
Oui, mais Moliendo Café, Blanco. C'est pas paraguayen.
Ah, d'accord.
C'est pas paraguayen. Ce qui était paraguayen, c'est Pájaro Campana.
Pájaro Campana, je connais
ça, c'est
aussi.
Paraguayen. Moliendo Café, ça se jouait à l'harpe vénézuélienne. Alors, il y a une vieille bataille entre l'harpe paraguayenne et l'harpe vénézuélienne.
Ah,
ça n'a pas le même son. L'harpe vénézuélienne a un son plus métallique, plus claquant. Et l'harpe paraguayenne, c'est quelque chose de plus rond.
Plus enveloppé.
Il y a un autre morceau qui s'appelle Cascada. Donc Cascada, et c'est effectivement le bruit de l'eau. On parlait justement de... Voilà.
C'est celle-là ?
Oui.
C'était un... Mais c'est mieux la harpe.
Oui, mais c'est pas mal.
Et effectivement, il y a de nombreux instrumentaux, de nombreuses musiques instrumentales composées pour la harpe, qui ont fait le tour du monde.
C'est fabuleux.
Merveilleux harpiste qui habitait Paris à cette époque-là, qui maintenant est aux États-Unis, qui s'appelle Ramon Romero, et qui est un très très grand harpiste. Enfin, parmi les vivants, je crois que c'est le meilleur.
Laurent, tu devrais dire avec qui tu as travaillé.
Le meilleur quand même, je crois, au niveau musicien sud-américain. Moi, j'ai travaillé avec Virgil Rojas, qui est le guitariste paraguayen dont tout le monde parle tout le temps.
Bon,
j'ai travaillé aussi avec Christine Alcité, Nicolas Pérez González, qui était quand même quelqu'un qui a appris la musique ici pour retranscrire justement tout le folklore paraguayen, qui a travaillé avec des gens comme Maurice Ohana, donc qui étaient vraiment des gens érudits et qui ont fait beaucoup pour la musique sud-américaine ici en France. Et on se rendait pas compte forcément à l'époque qu'on avait tous ces gens de grands talents, en fait.
Et Virgilio est toujours à Paris, il joue encore, il me semble.
Oui. Toujours là, présent.
Ouais. Est-ce que vous avez fait des arrangements pour ces morceaux de musique, ou vous les avez pris tels quels?
Alors, on les a non seulement pris tels quels, mais on les a chantés tels quels. C'est-à-dire que c'est un enregistrement qui ne réunit pas les conditions... Clairement. Les conditions d'un enregistrement studio classique. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un playback, enfin de chanter, de faire un accompagnement musical, et chanter dessus et recommencer jusqu'à ce que, et faire des petits bouts, et puis faire comme les choses se font maintenant, avec des coups de ciseaux sans arrêt et reconstruire une chanson complète. En fait, nous, on a voulu se replonger dans les conditions du Rancho Guarani, c'est-à-dire chanter du début jusqu'à la fin de la chanson. Donc, Laurent accompagne et moi, je chante. Et si on trouvait que c'était bien, on l'apprenait. Et si on trouvait que c'était pas bien, on recommençait du début, de façon à avoir l'interprétation totale. Parce que lorsqu'on chante, on démarre une chanson. Une chanson, ça se monte. C'est un travail qui se fait sur la longueur de la chanson. Si on coupe des petits bouts, on perd de l'enthousiasme, du sentiment, de l'interprétation. Et ça devient de la musique en boîte, mais il n'y a pas cette espèce de souffle et de palpitation que l'on a dans la musique vivante. Donc c'est du live, comme disait Bernard, moi je dirais que c'est du vivant. C'est de la musique vivante.
On a contrarié, du coup.
Non, c'est-à-dire que moi je suis la mémoire vive de la culture latine, donc c'est de la musique vivante.
Je m'adresse à tous les Français qui parlent anglais,
oui.
Et aux Belges, apparemment.
Laisse les Belges, là, de toute façon, ils ont fort à faire déjà, à se trouver.
Non, ils font bien.
Une voix.
Ils ne sont pas emmerdés. Ils n'ont pas de gouvernement qui les emmerde.
Qui se gouvernent.
Je voudrais demander quelque chose, Christina. Est-ce que c'est au cours des 40 dernières années, est-ce qu'on peut dire que ces musiques ont inspiré parfois des chanteurs français? Je pense par exemple, tu parlais de Marie Laforêt, je pense à Hugo Frey.
Ah oui, hein, bien sûr.
Avec sa harpe, sa auto-harpe, qui est une sorte de petite harpe automatique.
Il y a même Gilles Dreux qui avait fait un
Gilles
Dreux, tube.
Oui, Alouette. Oui, c'est,
je joue dedans, dans son disque.
Ça me parle maintenant.
C'est même allé jusqu'à Édith Piaf. Donc,
La foule.
C'est vrai. Même une valse péruvienne.
Mais c'est important, je crois, d'y repenser à tout ça.
Ah, parce que c'est une très belle musique.
Les Guaranis, ou ces gens-là, ont apporté quelque chose de nouveau dans les années 50, je pense. Parce que sans s'en rendre compte, on a participé à cette musique-là.
C'est intégré.
Et effectivement, il y a pas mal de chansons célèbres qu'on pense être des chansons françaises et en fait qui sont des adaptations, comme La Missa Criolla aussi. Mmh. On y a eu droit aussi. Hein. Et je crois que c'était quand même intéressant que tu reviennes aux sources, justement, en nous faisant entendre l'original.
Oui, voilà.
Un peu comme c'est depuis quelques dizaines d'années, on va dire. Maintenant, on a pris l'habitude de réécouter effectivement les versions originales de chansons qu'on pense être française. Ce qui est quand même amusant parfois, c'est qu'une chanson comme My Way est devenue plus célèbre sous le nom de My Way que sous le nom original, alors qu'elle est 100% française au départ. Mais bon, nul n'est un prophète dans son pays.
On a la même chose avec La Mère, hein, de Charles Trenet, oui, qui chantait en anglais et qui est très connue
par
les étrangers en anglais.
Non, mais je crois qu'elle est... c'est différent, parce que La Mère était très connue en français. Mais par contre, My Way, je dis My Way en plus, parce que comme d'habitude, finalement en France, c'est devenu vraiment un énorme succès quand ça a été traduit en anglais et que les gens, pour la plupart, ont imaginé que c'était une chanson américaine.
Oui, c'est vrai.
Par snobisme, ils ont préféré la version originale. Ceci dit, c'est vrai que la voix de Sinatra est en particulier est peut-être beaucoup plus agréable que celle du chanteur original de la chanson.
Oui, mais en Guarani, quand tu chantes au Guarani, c'est pas terrible.
Non, en Guarani, ça marche pas.
Non, vraiment, pas terrible.
Est-ce que tu te sens fille adoptive des Guarani?
Oui. Pas adoptive, je me sens fille des Guarani.
C'est une fille de la lune.
Fille de la lune.
Hija de la luna.
Je suis fille de la lune. Oui, absolument. C'est absolument incroyable. Moi, je crois que j'ai dû être Guarani dans une autre vie. Mais... Pourtant, Dieu sait si je me sens espagnole. Moi, je me sens beaucoup de choses, moi, il faut dire. Je me sens déjà hispano-française par nature, ça, on le sait déjà. Ou franco-espagnole, ça dépend des moments, ou comment vient le vent. Mais effectivement, la musique... Donc, cette musique-là particulière... du Paraguay, du Chili et de l'Argentine. Je me suis vraiment sentie à l'aise et dedans, comme si elle m'appartenait, comme si j'en faisais partie. Donc, ça n'a pas été une adoption. J'ai l'impression que ça a été comme une reconnaissance. Je ne sais pas. J'ai du mal à m'expliquer l'attirance que j'ai pour cette musique et pour ce chant. Et en plus, la façon naturelle avec laquelle je la chante. Parce que ça ne me demande aucun effort. Et le Guarani... J'en connais, enfin, je ne le parle pas couramment, mais j'en connais suffisamment pour dire ce que je veux, et j'en connais suffisamment pour savoir ce que je dis quand je chante. Et c'est une langue qui est dite très difficile, en fait, et j'ai été vraiment séduite, et ça m'a été facile.
Très bien. Voilà. Est-ce que l'Indien Guarani a une voix spéciale? Est-ce qu'il a une tonalité spéciale, lui?
On reconnaît, c'est pas l'Indien qui a une tonalité, en fait, c'est pas les gens. C'est pas les cordes vocales guarani ou africaines ou guatémaltèques qui sont différentes, puisque l'être humain est l'être humain. Je pense que c'est la langue qui fait qu'on prononce différemment. Il y a un lieu d'articulation et un lieu de prononciation, ça on va entrer en linguistique là tout de suite, qui font que les choses se prononcent dans des lieux différents du palais et qui font qu'on a un accent différent selon que l'on prononce dans une langue ou dans une autre. C'est-à-dire que moi, lorsque je parle français, vous n'avez pas l'impression que je sois espagnole quelque part. Je ne pense pas, ça ne s'entend pas à l'oreille nue. Mais si je commence à parler comme ça, vous allez penser que peut-être je pourrais prendre des cours pour améliorer la prononciation. Pourquoi ? Parce que je ne prononce pas dans le même endroit, je prononce des mots français dans le lieu d'articulation et de prononciation de la langue espagnole. En revanche, si hablo castellano así, tampoco se conoce que soy francesa. Pero si me pongo a hablar así con el acento francés, me parece que no he hablado español nunca. Tu vois? Donc voilà, c'est ça. Donc en fait, tu imprimes à tes cordes vocales ça. Donc il y a des voix. C'est pour cette raison qu'on reconnaît très bien quand un Argentin chante avec cette... Parce que par exemple, le fameux Gardel, il n'était pas argentin, il était toulousain. Il n'empêche qu'il a une voix d'Argentine pure. Pourquoi ? Parce qu'on l'a mis dans des conditions... Je pense qu'il n'y a que des conditions de vie chez l'être humain qui transforment les choses dans tous les domaines. Donc, il n'y a pas de race, il y a des conditions de vie. Oh, ça, c'est une phrase lapidaire.
Et en plus, pour les Argentins, il y a aussi une technique de chant qui est assez différente. Voilà. Donc, en fait, on les reconnaît de loin. Parce qu'ils ont, cette capacité à chanter très haut avec une fausse voix de fossé qui, en même temps, une fausse voix de poitrine. Et on a l'impression que c'est une voix de poitrine, mais en même temps, c'est des sons très aigus. Et c'est ce qui a fait tous les succès de Huancahua, par exemple, des Chachaleros ou... Et les chanteurs de Kilawasi qui ont une voix typique. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui sont... bon, on les reconnaît aussi pour ça. Mm. Mais on reconnaît aussi les Inuits. Hein.
Oui, non, je pensais à ça, parce que quand on entend les Amérindiens, enfin tous les Indiens comme les Sioux, Apaches, etc., qui ont des voix par moments très gutturales quand ils chantent, je me posais la question si on avait ce même cas avec les Guarani ou avec les d'autres Indiens d'Amérique du Sud.
Pour ce qui est des Guarani d'Amazonie, il y a aussi des sons, mais c'est pareil. Lorsque le chant s'élabore, là, et ce que je chante là, c'est le fruit de l'entrelac et du mélange des cultures. Donc effectivement, on a des sonorités et des mélodies qui sont aussi influencées par la musique espagnole, et donc ça a donné ce genre de voix. Mais effectivement, les Indiens Guarani qui existent encore et qui jouent avec leur longue flûte basse, là, lorsqu'ils chantent, effectivement, ils émettent des sons qui sont proches de la flûte basse. Parce que c'est leur référence, en fait.
Oui, je pense même que, justement, les Indiens amérindiens, sioux ou autres, qui ont tendance à jouer avec des tambours très graves, on les entend dans les films ou autres. Mais effectivement, quand ils chantent aussi d'une façon avec des voix de basse, parce qu'ils s'accompagnent avec des instruments très graves eux-mêmes. J'imagine que la voix, ça s'adapte plus ou moins à l'accompagnement.
Absolument.
Je voulais dire que tu avais souligné que Christina était très sensibilisée et sensible au Paraguay. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a une quinzaine d'années ou 20 ans, on m'a demandé d'écrire un opéra sur la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Alors, j'ai dit, bon, pourquoi pas, j'y vais commencer à écrire. Et j'ai écouté aussi des musiques espagnoles pour démarrer quand même, ou portugaises, pour faire de la musique contemporaine, puisque c'était un opéra écrit et pour des enfants. Aussi, il y avait des chanteurs classiques, mais... Donc, il a fallu faire des chansons, un opéra de chansons. Et j'ai demandé à Christina qu'elle m'écrive le livret, parce qu'elle est beaucoup plus érudite que moi, et elle a commencé à écrire là-dessus. Et donc, on est parti sur des bases de musique d'abord espagnole, un peu de portugais, et après elle dit bon, on prend le bateau, le caravelle, et on y va. Et elle a écrit des textes toujours espagnols, mais un peu guarani, qu'on a fait chanter par des enfants de, ils étaient 2 ans sur scène à chaque fois, et on a introduit des musiques. Et elle disait déjà, nous sommes fils de la lune, etc. Elle avait repris toutes les attaches des Indiens qu'elle connaissait bien, donc ça m'a beaucoup aidé pour faire ces musiques. J'ai écrit des musiques dans le style de... Je voulais préciser. Et cet opéra a bien fonctionné dans beaucoup d'écoles à Paris, dans les banlieues, et dites les banlieues difficiles, notamment Sevran, Mantes-la-Jolie, etc., Creil. Et c'est là où ça avait le plus grand succès. Et il y avait tout ce mélange, c'était que des Indiens pour en finir sur scène, qui chantaient terrible.
Très bien. Votre album est en vente à quel endroit ?
Alors, il est en vente sur Internet. La meilleure distribution actuelle.
Mais c'est la plus grande de ce...
Voilà.
C'est le plus grand magasin
de
disques.
Dans le monde entier, vous tapez Christina Delume, vous aurez tout son...
Pédigré.
Son pédigré. Et en plus, il y a tous ses disques, ses livres qu'elle a écrits. Et c'est vendu dans le site Believe.
Believe, oui.
Donc vous l'achetez, vous le téléchargez.
B-E-L-I-E-V-E, oui, d'accord.
Oui, vous le téléchargez légalement, évidemment. Vous pouvez acheter un titre, deux ou trois, ou l'album complet. Et ça arrive dans les 3-4 jours chez vous.
Très bien.
Et il y a toujours des extraits de chaque titre, 30 secondes. Et ce disque est distribué par... Enfin, il n'était pas distribué, il était produit par le label MAP, qui est le nôtre, c'est-à-dire le meilleur.
Bien, je vous remercie tous d'être venus pour présenter cet album. Je remercie notre ami Laurent Cardozo qui a pris au pied levé une guitare du studio.
Mais il ne va pas la prendre.
Ah non, je l'aime bien, je l'adore.
Et nous a interprété quelques morceaux. Merci à Christina Delume d'avoir chanté.
Le plaisir est pour moi.
Voilà, on s'est soudain transporté de l'autre côté de l'Atlantique. Ça y est.
C'était bien que notre ami Richard Scotto soit venu donner ses impressions aussi.
Oui.
Voilà, merci.
Et merci à Bernard Vistret. Je vous dis à tous à très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir. Ici, Autre Radio, Autre Culture. Bonsoir.
Asunción, qué distante tus recuerdos van quedando para mí. Asunción, eres dulce desde lejos en el arpa guaraní. Tendere beba a hanga a hechami. Quanto mai me mombuiri roja y ju paraguay. Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios ancestrales de tu estampa colonial, siempre evoco en mi nostalgia capital del Paraguay.
Autre radio, autre culture.